à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec au programme de votre grande table aujourd'hui l'idée régionale entre identité et réalité administrative. Il revient sur la longue histoire de nos provinces et de leur relation avec l'État central entre affirmation et instrumentalisation. Notre invité, l'historien Olivier Grenouillot, à l'occasion de la parution de son nouvel essai « Nos petites patries », c'est chez Gallimard. Il sera avec nous à partir de 12h55. Mais d'abord, l'art du vide. Calder, Picasso, une exposition leur est consacrée jusqu'au 25 août au musée Picasso à Paris, qui met leur œuvre en miroir autour de leur exploration du vide. L'occasion d'évoquer avec mes invités le dialogue que ces deux grands artistes ont ouvert à travers leur création, la manière aussi dont ils défiaient le mouvement des masses. On en parle ensemble jusqu'à 12h30, à écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Alexander Calder et Pablo Picasso, deux figures libres de l'art moderne qui se confrontent au vide. On en parle avec Émilie Bouvard, historienne de l'art et conservatrice du patrimoine, en poste aujourd'hui au musée Picasso à Paris où se tient cette exposition Calder-Picasso qui leur est consacrée. Bonjour Émilie Bouvard.
Bonjour.
Calder a dit, bien que la légèreté d'un solide ou d'une surface percée ou crantée soit des plus intéressantes, l'absence plus considérable de poids des nucléus déployés est bien plus intéressante encore. Alors pour comprendre ce type d' énoncé, il nous fallait le renfort d'un physicien pédagogue et donc qui mieux que Étienne Klein. Bonjour.
Bonjour.
Directeur de recherche au CEA et producteur de la conversation scientifique les samedis à 16h sur France Culture, bien sûr. On est heureux de vous avoir avec nous. D'ailleurs, il faut rappeler que Calder est passé par une école d'ingénierie mécanique dans le New Jersey avant ses études d'art à New York. Il avait un savoir-faire technique et probablement, Étienne Klein, un goût, une curiosité pour la chose scientifique. Ça se retrouve dans ses œuvres pour vous ?
Oui, même si dans ses écrits que j'ai pu lire, il n'y a pas de définition du vide. Mais le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Parce que le vide, c'est pas le néant, il y a une dimensionnalité, il est lié à l'espace. Et donc il faut définir ce qui existe et puis ensuite faire un travail d'épuration. Ce qui pose la question, qu'on retrouve d'ailleurs dans la physique, est-ce que le vide, ça procède de la bifure de l'être ? On enlève tout ce qui existe jusqu'à atteindre le néant. Ou bien est-ce que le vide, c'est simplement une espèce de matrice originelle de tout ce qui existe dans le monde, de la matière notamment, ce qui est le statut qu'a aujourd'hui le vide quantique, par exemple, qui est plein de choses.
Ah, est-ce qu'il y a en art une définition du vide, Émilie Bouvard ?
Est-ce qu'il y a en art une définition du vide ? Et il y a eu, disons, une grande révolution au XXe siècle, qui est l'arrivée de l'abstraction, qui, je pense, en son sein, pose la question du vide. Parce que une œuvre abstraite, dans quoi est-ce qu'elle se meut ? Une figure, elle se meut dans le monde, un animal, un paysage, un portrait, ce que persiste à faire Picasso. Ça prend place dans un environnement. Étienne Klein nous dira que cet environnement est fait de vide, mais pour une conscience classique, disons pré-XXe siècle, le monde est fait de choses. Alors qu'une abstraction sur la toile ou dans l'espace, on ne sait pas très bien dans quoi elle est, et elle implique une sorte de vibration, d'absence de matière autour d'elle, qui peut être une des sensations du vide. Et puis il y a peut-être une autre chose, j'y pense en parlant, c'est que l'art, je pense à la pratique du dessin, et c'est quelque chose qui a beaucoup marqué Picasso. En dessin, on parle de réserve. La réserve, c'est les parties de la page qui ne sont pas dessinées. Et sous beaucoup de grands dessinateurs, je pense à Ingres, qu'adorait Picasso, ont beaucoup travaillé sur les réserves. Poussin, voilà. Et c'est une chose, je crois, que Picasso retrouve à la fois dans son dessin et dans ses sculptures filaires dont on parlera certainement plus tard.
La réserve, ça existe aussi en physique.
Les physiciens sont des gens réservés par définition. Mais je crois qu'il y a aussi dans ces années dont on parle, des rencontres qu'il y a pu y avoir entre Calder et Picasso, les années 20, 30, et puis ça a duré jusqu'à la mort de Picasso, je crois.
Alors, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'ils se sont assez peu rencontrés. Hein,
mais ça, à chaque fois, ça a été décisif, ça les a marqués. Et ce sont les années qui correspondent dans tous les champs artistiques ou bien scientifiques à ce qu'on pourrait appeler une crise de la représentation. C'est-à-dire que la physique quantique, c'est l'idée que les lois physiques ne ressemblent pas aux lois classiques, que les lois du monde sont abstraites et qu'il y a tout un travail d'interprétation pour voir comment des entités abstraites, des lois abstraites, peuvent expliquer des phénomènes empiriques. Et je pense que ça se retrouve, même si l'influence n'est peut-être pas directe, aussi bien dans l'œuvre de Calder que dans celle de Picasso, Chez Calder, il n'y a pas du tout d'humain. C'est vraiment des formes, c'est de la matière inerte, mobile mais inerte. Alors que chez Picasso, on est toujours connecté à l'humain, me semble-t-il.
Le petit-fils de Calder dit d'ailleurs « Pour mon grand-père, c'était une affaire de force invisible. Il est des choses que nous ressentons, comme la gravitation et le vent, des forces actives que nous connaissons, mais nous sommes encore incapables de définir scientifiquement des choses comme l'intuition ou la prémonition. » On le peut aujourd'hui ? C'était le cas à l'époque,
pas plus. À chaque fois qu'on essaie de penser le rien, ou le néant, ou le vide, on le transforme en autre chose que lui-même. C'est-à-dire que c'est... L'idée de néant, c'est une idée qui est destructrice d'elle-même. Dès qu'on y pense, on en fait quelque chose que le néant, par définition, ne peut pas être. Et donc, il y a une sorte de fascination intellectuelle pour quelque chose qui semble transcender les catégories, les représentations. Et si je devais dire quel est le projet commun de Calder et de Picasso, il se trouve dans un texte de Flaubert, il me semble, dans une lettre qu'il a adressée à Louis Scolaire en 1852. Donc bien avant la période dont on parle, voilà ce qu'écrit Flaubert. « Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style. » Et Calder disait « Une statue peut exister en l'air sans être posée sur le sol. Un livre comme la terre, sans être soutenue, se tient en l'air. Un livre qui n'aurait presque pas de sujet, ou du moins où le sujet serait presque invisible, si cela se peut. » Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière. Ça, c'est Calder.
Flaubert, alors co-commissaire de cette exposition en ce moment,
à titre posthume.
Musée Picasso, à titre posthume, et Émilie Bouvard.
Et je crois que cette citation de Flaubert, elle arrive fort à propos. Picasso était un homme en partie du 19e siècle qui connaissait très bien les avant-gardes, qui avait lu Apollinaire, qui connaissait peut-être cette citation de Flaubert. Je ne sais pas dans quelle mesure elle est diffusée à l'époque. Mais surtout, Picasso à partir de 28, essayé de construire un monument à Apollinaire dans le cadre d'une commande pour célébrer la mort du poète pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, pour cette sculpture, il met en pratique une phrase fameuse que Guillaume Apollinaire met dans la bouche de l'oiseau du Bénin, qui est Picasso, en fait, dans son livre Le poète assassiné, qui envisage une sculpture sur rien, une sculpture du vide. Donc ce projet que Flaubert décrit dans une lettre à Louis Collet, on le retrouve tout à fait dans cet ouvrage d'Apollinaire, et on sait que Picasso en avait une très grande connaissance.
Alors vous partez tous les deux haut et fort et vite sur cette thématique, l'art du vide par Calder et Picasso. Juste revenir effectivement sur les liens entre les deux hommes qu'on a évoqués, Émilie Bouvard, de leur vivant, peu de liens directs s'étaient noués entre ces deux artistes. Ils étaient souvent exposés côte à côte, et ça c'est déjà assez intriguant. Ils partageaient le même galeriste à Paris, ils se seraient vus en tout et pour tout 4 fois.
Oui.
On peut dire quand même qu'ils se respectaient de loin.
Oui, on le sait à bien des égards. Tout d'abord, la première rencontre, de manière très significative, c'est une rencontre en 1931, à la Galerie Percier à Paris, où Alexandre Calder présente pour la première fois ses œuvres abstraites. Et on sait que Picasso est venu avant le vernissage. Picasso était mondain et pas mondain, c'est-à-dire parfois il évitait les vernissages. Il vient avant pour voir les sculptures abstraites de Calder, alors même que lui-même refusera toujours de passer à l'abstraction. Donc, première rencontre qui marque une estime de Picasso pour Calder. On sait aussi que Picasso est venu l'année suivante à la Galerie Vignon pour voir une seconde exposition de Calder, une exposition qui s'appelait Calder, c'est mobile. Et ensuite, on voit Calder, dans les années 50 après-guerre, en 52, en 53, rendre visite à Picasso, demander à le voir. Donc on sait que Picasso avait un intérêt pour l'œuvre de Calder, et on sait que Calder estimait la vie de Picasso tout en sachant lui-même que le risque avec Picasso, c'était que Picasso était une sorte d'éponge et qu'il avait toujours cette possibilité de prendre, de s'inspirer, de faire sien l'œuvre d'un autre pour l'intégrer complètement à sa création.
Mais Picasso n'est pas allé voir le cirque de Calder alors qu'il y a été invité, hein ?
Non, alors il n'est pas allé voir le cirque de Calder, mais Picasso en a certainement eu une grande connaissance, parce qu'en fait Picasso et Calder, surtout sur Paris, mais aussi dans certains relais américains, fréquentaient les mêmes personnes, avaient des relais critiques et amicaux qui étaient les mêmes, et notamment la revue de Christian Zervos Cahiers d'art, qui consacre de nombreux numéros à Picasso, qui fait connaître son œuvre en temps réel, en quelque sorte, mais aussi l'œuvre de Calder en temps réel. Et Picasso avait certainement connaissance de ce cirque, d'autant que c'est un sujet qui le passionnait lui-même.
Dans cette première exposition en 1931, là où la rencontre se fait entre les deux pour le vernissage donc de l'exposition Volume, Vecteur, Densité de Calder, deux des œuvres exposées, Croisière et Sphérique 1, se trouvent en ce moment au musée Picasso pour cette exposition croisée. Étienne Klein, vous voulez peut-être nous dire un mot, elle doit vous parler de cette œuvre Croisière d'Alexandre Calder sur la page de droite.
Oui, il me semble que d'ailleurs, dans le petit texte qui lui est associé, il y a le mot quantique qui est prononcé. Bon, c'est les années de formation de la physique quantique, comme je l'ai dit, mais je suis pas sûr que ce dessin qui est très géométrique évoque vraiment le monde quantique.
Une sculpture, hein.
Oui, c'est une sculpture, oui. Mais qui est quand même très géométrique, très, très dessinée, avec des formes très nettes. Ça m'évoque pas quelque chose de quantique.
Rien de particulier et pas mieux pour Sphérique.
Je dirais la même chose, en effet. C'est trop géométrique pour être quantique, si vous voulez.
Émilie Bouvard.
Mais ça traduit l'ambiguïté du vide. C'est-à-dire, soit on le pense comme un espace vide, donc comme un être géométrique, soit on le pense comme une sorte de substance porteuse d'énergie. Et il me semble que dans le projet de Calder, il y a l'idée que quand on enlève toutes les choses, il reste l'énergie. Et ça peut parler à un physicien.
Émilie Bouvard.
Oui, alors on présente ces œuvres-là et on présente également dans la première salle de l'exposition un mobile de Calder de 1937 face à une figure d'automne 28 qui est une de ces petites sculptures en préparation au monument à Apollinaire. Et alors je ne sais pas si c'est quantique, je prétendrai pas, voilà.
Non, tout est quantique.
Qualifier de quantique l'une ou l'autre, mais en revanche on voit bien comment chez Calder, il y a un jeu avec l'espace, parce que ce qu'il faut aussi voir, c'est que pour ce qui est des mobiles, le mouvement qu'implique le mobile crée une sorte de dessin dans l'espace qui est mouvant et qui dessine en quelque sorte des zones de vide variables. C'est ça qui est fascinant chez Calder, pouvant éventuellement même produire de la musique. Donc ce mouvement qui crée des zones de vide variables, il est comparé dans l'exposition aux figures de Picasso qui, elles, sont fixes, mais dont on pourrait imaginer, puisque c'est la leçon du cubisme, des rotations, des points de vue différents. Donc chez l'un et chez l'autre, il y a comme ça un jeu avec l'espace qui est un jeu avec le vide et où l'un et l'autre essayent avec leurs propres moyens de voir quels sont les jeux, disons, des points de vue différents, des mouvements dans l'espace. Alors moi, je ne suis pas physicienne, mais je crois que la question du temps, du coup, intervient assez vite, puisque que ce soit dans l'héritage cubiste que dans les mouvements des mobiles de Calder, ce sont des choses qui sont à élaborer en rapport avec le temps.
Alors, juste pour dire que ces deux sculptures qu'on évoquait, Croisière et Sphérique, c'est plutôt c'est des sculptures sur pied.
Celles-ci
là, on n'est pas,
oui.
pas sur des mobiles, oui. Et elles ont cette forme arrondie presque du globe sur le haut, en tout cas concernant Croisière. Elles sont réalisées en fil de fer, ce qui était la technique caractéristique de Calder dans les années 20, avant même ces fameux mobiles. Et il a aussi réalisé des portraits qu'on retrouve dans l'exposition, dont les ombres sont projetées sur le mur et qui figurent une autre expression. Ça a été la première confrontation pour vous deux de Calder au vide. Émilie Bouvard.
Oui, donc Calder, à partir de 26 et jusqu'à son passage à l'abstraction, réalise ses portraits de personnalités, notamment de Joséphine Baker, par exemple, qui sont faits en fil de fer, qui sont suspendus et qui sont des sortes de dessins dans l'espace, dont les ombres portées sont à leur tour un nouveau dessin dans l'espace, mettant en valeur les vides et les pleins de la structure. Je rajouterais, peut-être, puisqu'on parle de ça de façon très sérieuse, que ce sont des personnages qui sont très drôles aussi, qui sont des sortes de caricatures, au bon sens du terme, des portraits comme c'était la mode d'ailleurs à l'époque. Il y a d'autres artistes, Marie Vassiliev par exemple fait des poupées de personnages célèbres. Et donc ces personnages, ils viennent comme une sorte de nouveau cirque, comme une galerie de portraits un petit peu drôlatique des personnages du temps.
Alors on dit, Étienne Klein, de Picasso comme de Calder, qu'il dessinait dans l'espace. Pour l'un comme pour l'autre, l'enjeu n'était pas de remplir le vide, ce qu'on a évoqué, mais de le représenter. Alors comment, pour vous, s'y sont-ils pris? Est-ce que vous pouvez nous traduire cette idée du vide comme antimatière dans leur perception?
Alors, dessiner l'espace ou dessiner dans l'espace, C'est une expression qui me paraît tautologique. Je vois pas comment on peut on peut pas supprimer l'espace. Par contre, on peut donner, par le dessin, l'idée de sa suppression. Et la définition que je rappelais tout à l'heure, le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Eh bien, elle revient à se dire qu'est-ce qui existe vraiment, quel est le mobilier ontologique du monde que je conçois. Ensuite, j'enlève ces choses et il restera le vide. Et eux ont une définition du coup du vide qui est tout à fait personnelle. Quand on regarde la série des 11 lithographies de Picasso, d'un taureau, il dessine un taureau, puis il l'épure de plus en plus en une série de 11 étapes. Et à la fin, il y a l'essence même du taureau qui est représentée par une ligne continue qui dessine ce qu'on pourrait appeler la quintessence de l'idée de taureau.
Et voilà, ces 11 lithos qui ont été réalisés entre 45 et 46, décembre 45, janvier 46, et qui sont de plus en plus épurés. Hein,
et pour moi, c'est l'œuvre la plus émouvante de l'exposition, même s'il y en a beaucoup d'autres, parce que chez les physiciens, il y a eu ça, c'est-à-dire que le vide quantique dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est on retire toutes les particules, on retire les électrons, les photons, la lumière, la matière, et ce qui reste, c'est l'espace, le temps, plus ce qu'on appelle des champs quantiques dans l'état fondamental, c'est des particules virtuelles. Elles sont pas vraiment là, elles manquent d'énergie pour être vraiment réelles, et c'est un vide qui est donc grouillant d'énergie, qui s'appelle le vide quantique, et il me semble qu'aussi bien Calder que Picasso essaient, même s'ils n'ont peut-être pas la notion, de l'approcher par des techniques différentes.
Avec nous, jusqu'à midi et demi, Émilie Bouvard, historienne de l'art, qui vient nous parler de cette exposition Calder Picasso, qui a lieu actuellement au musée Picasso jusqu'au 25 août, et Étienne Klein, physicien, qui vient nous parler, lui, du vide et du non-espace qui entoure aussi ses créations. Allez, l'art du vide, on est ensemble jusqu'à midi et demi. Pour l'heure, il est midi 19 sur France Culture.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Avec Calder et Picasso, il s'agit de représenter le vide et non pas de l'exposer. Ça, d'autres s'y sont essayés, à commencer par Yves Klein, avec son manifeste du rien de la galerie Iris Clert avec l'exposition Le Vide en 58 à Anvers ou lors d'une exposition de groupe en 59. Lui, Yves Klein, présente l'immatériel. Écoutez-le.
Je me rends à Anvers, et au moment du vernissage à l'emplacement qui m'était réservé dans la salle d'exposition d'Essenuys, au lieu d'y placer un tableau ou un objet tangible et visible quelconque, je prononce d'une voix forte devant le public ces paroles empruntées à Gaston Bachelard. D'abord, il n'y a rien, ensuite il y a un rien profond, puis une profondeur bleue. L'organisateur belge de cette exposition me demande alors où se trouve mon œuvre. Je réponds là, là où je parle en ce moment.
Voilà, ça c'était Yves Klein à la Sorbonne expliquant ce qu'il avait voulu faire. On entend à travers ses mots et cette explication aussi son envie de transgresser les limites du regard, de la perception, de jouer avec l'illusion aussi, Étienne Klein.
Oui, on parle souvent d'Yves Klein, parfois on me confond avec lui comme s'il avait ressuscité. Mais il parlait du théâtre du vide, il avait convoqué les gens pour assister au théâtre du vide, il n'y avait rien à voir sauf à gambader dans un espace dépourvu de toute chose. Mais il y a l'idée que quand on a retiré les choses qui sont dans l'espace, il y a encore beaucoup à penser. Il y a à penser le lien entre l'espace et la matière. Est-ce qu'ils sont connectés? Est-ce qu'ils sont indépendants? Est-ce qu'il y a une adhérence de la matière dans l'espace? Et en fait, les réponses que les physiciens donnent à ces questions dépendent des théories qu'on considère comme les théories référentes. Si on prend la physique classique, celle de Newton, le vide, c'est l'espace avec aucun objet à l'intérieur, plus le temps. Si on prend la relativité d'Einstein, le vide, c'est l'espace-temps dénué d'objets. Si on prend la relativité générale, théorie de la gravitation, ça devient encore plus compliqué puisqu'il y a une adhérence de la matière à l'espace-temps. Si on retire la matière, on retire l'espace-temps qui va avec. En tout cas, c'est un sujet de discussion. Et donc, pour un physicien, parler du vide en général sans se référer à une théorie qui dit ce qui est et ce qui n'est pas, c'est très difficile. Il y a une mosaïque de vide qui apparaissent. Et d'ailleurs, un des grands problèmes de la physique, c'est qu'elle s'appuie sur deux théories fondamentales. La physique quantique qui décrit trois des quatre interactions fondamentales, les forces nucléaires, électromagnétiques, et puis il y a une autre théorie qui est la relativité générale, qui ne décrit que la gravitation. Or, ces deux théories n'ont pas le même vide. Est-ce qu'on a le droit d'imaginer que dans l'univers, il y a deux vides différents?
On a le droit, on a tous les droits.
On a le droit, mais est-ce que du coup, il n'y a pas des problèmes d'appellation? Est-ce que le mot vide est justifié? Et ce qui est intéressant, c'est que ce mot qui est très ancien, c'est un mot qu'on trouve déjà chez les Grecs, le mot n'a pas changé, mais ce qu'on met derrière ce mot n'a cessé d'évoluer au cours de l'évolution des idées.
Alors, vide avec un S, c'est justement le titre qui avait été choisi pour une rétrospective réalisée en 2009 au Centre Pompidou. Ni peinture murale, ni geste figuratif, Laurent Lebon, qui est l'actuel président du musée Picasso, avait voulu renouveler l'expérience de Yves Klein en 2009 au Centre Pompidou, alors qu'il y était, avec cette rétrospective qui parlait de toutes celles qui avaient eu lieu autour du vide, dont celle d'Yves Klein en 58. Écoutez Laurent Lebon à ce propos.
Je pense qu'on était vraiment au cœur du sujet. Ça venait justement d'un dialogue avec un artiste, notamment John Armleder, et puis le critique Mathieu Copland. Mais j'ai réussi à faire passer cette exposition dans la programmation du Centre Pompidou sur un seul point positif, c'est qu'elle n'allait rien coûter, puisque j'ai défendu l'idée, pour celles et ceux qui n'ont pas vu l'exposition, de faire une rétrospective des expositions vides du XXe siècle. Donc, en partant de celle d'Yves Klein, on en a trouvé une petite quinzaine, et donc Yves Klein nous a quittés, mais les autres artistes étaient vivants, et on leur a demandé s'ils acceptaient qu'on rejoue dans l'espace du Centre Pompidou l'espace vide. Donc, a priori, sur le papier, rien de plus simple, on expose une salle vide, on met un cartel, et on dit que c'est l'exposition du moment. Mais j'avais oublié un petit détail, c'est qu'il allait se produire peu après le vernissage exactement ce qui s'était passé pour l'expo d'Yves Klein. Le public s'est mis à écrire sur les murs, ce qui est assez étrange. Donc ils ont commencé à prendre les murs comme des dadzibao. Voilà. Or, peut-être que peu de gens le savent, le Centre Pompidou utilise un blanc spécial pour repeindre ses murs. Les musées aiment bien créer un peu d'originalité. Alors évidemment, c'est un blanc dont chaque pot de peinture doit coûter 6 ou 7 fois le pot de peinture traditionnel. Et donc du coup, ce qui ne devait rien coûter a dû coûter 2 fois le prix d'une expo traditionnelle. Donc ils m'ont envoyé en Lorraine. Voilà. Mais bon, j'y étais très bien. Voilà. Voilà.
Mais oui, c'est très beau la Lorraine. On vous en reparlera dans la deuxième partie de la Grande Table. Le regard a horreur du vide et les spectateurs, le public de cette exposition ont rempli ou en tout cas tenté de remplir le vide en dessinant sur les murs. Émilie Bouvard, Picasso et Calder, eux aussi jouaient avec cette perception du public. Hein. Avec Calder, le mobile se projette dans des espaces qu'il n'occupe pas. Et il y a cette triangulation qui va se jouer entre l'œuvre, entre le spectateur et le vide alentour ou le non-espace.
Oui, en effet, le principe des mobiles de Calder, c'est que d'une part, ils sont mobiles, d'autre part, ils impliquent parfois qu'on les observe de différents points de la pièce, et ils ont même une forme d'activation qui est prévue, hasardeuse, ou que l'on peut activer soi-même. Alors, on le fait pas au musée Picasso, mais il est possible d'activer certains mobiles de Calder. Et on a aussi dans l'exposition un cas d'un mobile qui prévoit que selon les mouvements de ses parties, un son puisse se faire entendre, tel un gong. Donc le mobile de Calder. Alors, ce qu'il y a de très intéressant dans l'exposition au musée Picasso, c'est qu'on a dépendu les lustres Giacometti pour accrocher les mobiles de Calder au plafond. Donc c'est aussi un jeu avec le spectateur, mais je dirais aussi un jeu avec l'espace de l'Hôtel Salé, une sorte d'intervention qui métamorphose l'Hôtel Salé. On a l'impression qu'il prend, qu'il gagne en légèreté. Et c'est peut-être aussi ça le jeu avec l'espace, c'est que un mobile dans une pièce, c'est un jeu certes avec le spectateur, mais c'est aussi un jeu avec l'espace de la pièce, avec l'architecture qui est massive, qui est solide, qui est lourde, alors que le mobile entraîne vers ce qui est le contraire de la sculpture traditionnelle en ronde bosse, vers ce qui est le contraire de l'architecture classique traditionnelle. Et ça, on le voit très bien dans l'exposition, d'autant qu'il est peint, ce mobile, de différentes manières. Il y a un mobile qui n'est pas peint dans l'exposition, et ses couleurs viennent entrer en contraste encore plus flagrant avec notre architecture classique de la fin du XVIIe.
Alors sur cette thématique du vide, on a beaucoup parlé de Calder, et c'est plus simple avec ses mobiles comme avec ses stabiles, du coup ces sculptures qui avaient les pieds dans le sol. C'est plus simple d'imaginer ou d'essayer d'évoquer le lien ou ce qui peut essayer de se créer avec le vide. On a peu parlé, moins parlé de Picasso, qui lui, à la même période, a aussi réfléchi à cette question du vide, aux formes, aux volumes, mais à l'intérieur de la toile, Étienne Klein, dans l'espace qu'elle lui offre. Alors là, je vous mets en position moins de physicien que de regardeur. Comment Picasso jouait ou représentait le vide à vos yeux?
Bah, j'ai l'impression que c'est un travail d'épuration, c'est-à-dire on élimine ce qui est superficiel pour tenter d'accéder à ce que j'appelais tout à l'heure l'essence des choses. Maintenant, il y a toujours, dans ce que j'ai vu de Picasso, une trace qui fait référence à l'humain. Et donc, on n'est pas dans la matière brute, inerte, on n'est pas dans le cosmos. On est plutôt dans quelque chose de très incarné, même si on essaie de se débarrasser de tout ce qui peut être superficiel. Je sais qu'il y avait des relations très amicales entre Picasso et Braque. Et Braque a écrit quelque part « Ce qui se trouve entre la pomme et l'assiette se peint aussi ». Et je me demande si ça, c'est cette démarche-là qu'il a suivie. Est-ce qu'il faut peindre ce qui est entre, ou au contraire faire comme s'il n'y avait rien entre ?
Oui, cette phrase que vous mettez en exergue où il fait référence à Cézanne et à la pomme, hein, là encore. Si l'on s'occupe de ce qui est plan, c'est-à-dire de l'objet comme forme positive, l'espace environnant est réduit à presque rien. Si l'on s'occupe surtout de l'espace qui entoure l'objet, l'objet est réduit à presque rien. Qu'est-ce qui est le plus intéressant, ce qui est à l'intérieur ou ce qui est à l'extérieur de la forme, écrit-il ou dit-il à Françoise Gillot à ce moment-là. Ce qu'on a retrouvé, peut-être distingué et terminé là-dessus avec vous, Émilie Bouvard, ce vide intérieur auquel fait référence l'œuvre de Picasso et ce vide extérieur pour Calder, deux explorations différentes de cette notion de vide, plus subjective pour Picasso, plus intellectuelle, presque plus scientifique aussi pour Calder.
Si on revient en effet à la peinture de Picasso et à sa recherche du vide, on peut penser dans l'exposition à cette femme dans un fauteuil de 1932 qu'on expose, qui est un ensemble de masques qui ressemblent à des osselets et qui est une sorte de masse qui finalement sont comme dans un équilibre fragile, qu'on a le sentiment qu'elles vont sortir de la toile, qu'elles vont rouler. Et finalement, c'est une peinture dont l'équilibre global ne repose pas tant dans la densité des objets qui la composent que dans leur jeu entre eux. Ça ressemble à un jeu de construction, ce qui est très, je pense, important pour la pensée des deux artistes, les jeux de construction, Donc ça c'est une chose importante pour Picasso, le vide entre les formes, la manière dont les organes, dont les objets, dont les choses jouent entre elles dans la toile et dans la sculpture évidemment aussi, dans la petite fille sautant à la corde par exemple, réalisée à Valoris au début des années 50, on le voit aussi. Chez Calder, dans ses sculptures abstraites, moi j'ai davantage le sentiment d'une sculpture de l'espace environnant, tandis que Picasso cherche plus peut-être à réfléchir au vide entre les formes.
Et si Étienne Klein se prenait pour Yves Klein, on aimerait bien savoir ce que vous sculpteriez ou ce que vous réaliserez comme œuvre avec du vide à l'intérieur, autour.
Ce serait de l'espace bleu.
Ce serait l'espace bleu. Merci mille fois à vous, Étienne Klein, et merci beaucoup, Émilie Bouvard, d'être venue nous parler de cette exposition qui se tient actuellement au musée Picasso à Paris, à voir jusqu'au 25 août. On peut aussi feuilleter le très beau catalogue qui lui est consacré et qui est édité par Skira, Calder, Picasso. Merci beaucoup à tous les deux.